La BD, c'est pratique parce que c'est une façon d'avoir du texte, mais aussi des images, et c'est un médium qui est assez populaire, enfin, au terme de... C'est transgénérationnel, c'est la BD, il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes. C'est une façon de se cultiver qui est présente chez toutes les classes sociales, enfin plus ou moins, mais voilà, les Bourges appellent ça roman graphique, mais c'est la même chose. Et beaucoup de gens qui disent ne pas lire, lisent des bandes dessinées, enfin, c'est vraiment très accessible. Et c'est par ailleurs un milieu, enfin le 9e art, est en train de faire de prendre le pas MeToo, mais prend plus de temps que les autres, parce que a été sclérosé par le sexisme vraiment particulièrement fort.
Bonjour à tous, je m'appelle Zoé et vous écoutez Le Lobby, l'émission queer de Radio Campus Paris. Le 16 et 17 mars prochain se tiendra la deuxième édition du festival Les Plancheuses, que vous connaissiez peut-être sous le nom d'Angoudou, qui avait eu lieu pour la première fois au Hasard Ludique en février 2023. Si vous suiviez l'actualité de près ou de loin à la fin de l'année 2022, vous aviez sans doute entendu parler des critiques qu'avait suscité la programmation d'une exposition lors de la 50e édition du festival de BD d'Angoulême, un des plus grands et importants festivals pour le genre. Cette exposition autour de l'auteur de BD Bastien Vivès, qui s'intitulait sobrement « Dans les yeux de Bastien Vivès », mettait à l'honneur ses productions. Or, cet auteur met en scène de la pédocriminalité, participe à la culture du viol, de l'inceste et adore érotiser de très jeunes personnes. En bref, tout ce que la société aime protéger sous couvert de liberté d'expression, d'amour de l'art, etc. À la fin, l'exposition a été déprogrammée. Victoire féministe ? Non, les organisatrices de l'exposition craignaient pour la personne de Bastien Vivès, qui avait reçu des menaces. Cette histoire est maintenant un peu vieille, mais il semblait important de la rappeler puisque c'est dans ce contexte qu'a été créé le festival Angoudou pour mettre en avant d'autres auteurices et illustratrices que ceux habituellement célébrés par les institutions culturelles, pour offrir aux lectrices de BD d'autres représentations. Des histoires non criminelles, celles qu'on a envie de lire finalement. J'accueille aujourd'hui Ludine, tu es dessinatrice, on te connaît sous le nom de Ludinamite sur Instagram, tu as notamment fait des chroniques en BD pour le magazine 50-50, et tu as créé l'année dernière le festival d'Angoudou avec d'autres personnes, aujourd'hui renommé Les Plancheuses. Bonjour.
Bonjour.
Mathilde, tu es aussi à nos côtés, tu as également cofondé ce festival, tu es étudiante et sois la bienvenue également.
Merci, bonjour.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur la première édition du festival ?
Le festival il s'est déroulé quelques semaines après Angoulême 2023. Il s'est déroulé au Hasard Ludique à Paris. C'était toute une après-midi, une soirée où il y avait plein de stands tenus par des illustratrices et bédéastes. Il y avait aussi un espace avec des tatoueuses, une table ronde et une fresque participative que vous pouvez aller voir sur le compte Insta du festival, qui est super joli et très chouette. Et en fin de journée, il y avait des DJ sets pour finir en dansant. Et on a organisé ça très 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 rapidement avec très peu de personnes. Et en fait, il y a plus de 700 personnes qui sont venues au festival. Donc ça s'est super bien passé.
Du coup, vous avez pu organiser ça en quelques mois, juste après l'édition d'Angoulême ? Vous aviez déjà prévu de faire un festival ?
On n'avait pas du tout prévu. On a organisé le festival en 3 semaines, en réaction à ce qui se passait, ce que tu viens d'expliquer à Angoulême. On était très énervés, on avait envie de réagir et de créer un espace, un contre-espace pour mettre en avant d'autres personnes dont on aimait le travail. Et donc ça s'est fait en très peu de temps et en réaction à ça au départ. Ouais.
Et du coup, comment vous aviez contacté les artistes qui sont venus ? Est-ce que c'était surtout par vos connaissances ou est-ce que vous aviez fait un appel à participation ?
L'an dernier, on n'a pas du tout eu le temps de faire comme ça, de faire un appel à participation. On a essayé de trouver un lieu déjà en expliquant le projet qu'on avait en tête au départ. On a eu différentes réponses et puis une fois qu'on a trouvé un lieu et qu'on avait une date de bloqué, on a contacté plein de gens dont on aimait le travail sur Insta. Il y a d'autres gens qu'on a fait venir qui étaient des collectifs ou des illustratrices parmi nos copaines. Mais sinon pour la plupart c'est des gens qu'on ne connaissait pas personnellement, à qui on a présenté notre projet et qui nous ont super soutenus et qui sont venus sans avoir du tout une idée de ce à quoi ça allait ressembler et qui étaient finalement très contentes de pouvoir être là.
Cette année, le festival, vous l'avez renommé, Les Plancheuses. Est-ce que c'était pour sortir de ce début lié à Angoulême ou...
Ouais, bah que c'est effectivement Angoudou, on l'avait vraiment pensé comme un contre-festival et que là l'ambition c'est de devenir un festival certes qui reste un contre-festival puisqu'on met pas en avant les mêmes personnes, les mêmes façons de raconter des histoires que dans les institutions culturelles classiques de la BD, mais en tout cas ouais, se détacher d'Angoulême pour devenir nous quoi.
Et du coup la deuxième édition a lieu aux Arches Citoyennes, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce lieu ? Qui a un tiers-lieu en plein cœur de Paris, dans l'ancien siège de l'APHP.
C'est Plateau Urbain qui gère ce lieu, qui est une coopérative, il me semble, et qui loue le lieu à plein d'artistes. Il y a plein de locaux d'artistes en fait, là-bas, des locaux d'assaut et tout, à des loyers pas trop chers, et qui prête les lieux pour des événements comme le nôtre, gratuitement, et qui accompagne... Les personnes qui veulent monter des projets là-bas plutôt bien, donc c'est chouette.
Et voilà, big up à Juliette qui s'occupe de nous là-bas, merci à
elle. Et du coup, c'est quoi le déroulé du programme de ces 16 et 17 mars ?
Cette année, on fait ça sur 2 jours, ce qui nous permet d'accueillir encore plus de personnes et d'avoir une programmation plus dense. Donc le samedi, il y aura des stands et des dédicaces de plein d'artistes et auteurs super, mais également une conférence dessinée de Crazy Noose sur Instagram, il sera, qui nous parlera du syndrome de l'imposteuris pendant quelques temps. Ensuite, il y aura une table ronde dont on ne va pas dévoiler les invités pour le moment, mais qui va parler de comment concilier militantisme et industrie de l'édition. Suite à ça, il y aura des questions. Et ensuite, pour la soirée, classique, hein, faire des DJ sets pour danser un peu et faire en sorte que ça soit un espace militant, mais quand même un peu sympa, quoi. Et le dimanche, donc ce sera un petit peu plus calme, ça va commencer un peu plus tard, mais il y aura toujours des stands, toujours des dédicaces réparties tout au long de l'après-midi. Et également donc, un enregistrement de podcast, d'un podcast épicé, avec, on peut le dire, hein, oui, avec Camélia Blando, donc Fille Flingue sur Instagram, qui est l'illustratrice, enfin, qui a fait les dessins de la BD Amour Croisé, qui a été écrit par Lauren Safou. Et après ça, il y aura un super drag show qui est hosté par La Bestiole avec plein de super artistes. Et on continue, enfin, drag show kids-friendly d'ailleurs, on peut préciser. Et on finira en beauté encore avec des DJ sets pour clôturer cette édition.
Voilà. Et sur les 2 jours, il y aura aussi, comme l'année dernière, des tatoues artistes. Donc vous pourrez venir vous faire tatouer. Et puis il y aura aussi une fresque participative comme l'an dernier. Mais on espère que vous ferez encore mieux que l'an dernier. Il y aura aussi un espace dédié à Bibliothèque Queer, qui est un collectif qui était là l'an dernier, où vous pourrez aller juste vous poser pour soit vous isoler un peu du flux de personnes qu'il y aura, et pour lire des BD autant de temps que vous voulez. Et puis on aura aussi Librairie Majo, qui est une librairie féministe, qui était là l'an dernier, qui va tenir un stand.
Comment vous faites la programmation ? Est-ce que vous avez une idée claire de ce à quoi vous voulez que ça ressemble ? Ou est-ce que vous faites, et où est-ce que vous faites en fonction de vos goûts à toutes les trois ? Et aussi peut-être des personnes qui vous répondent.
Alors, ah non, pardon, vous êtes trois. L'année dernière, on était 4, peut-être on peut les nommer. Donc il y avait Camille et Ottilie. Et donc cette année, Camille fait d'autres choses. Et Ottilie est toujours avec nous. Donc on est 3, Mathilde, Ottilie et Ludine.
En fait, notre idée, c'est du coup de visibiliser le travail de personnes qui n'ont pas particulièrement d'espace pour LE à d'autres endroits. Et du coup, l'objectif qu'on s'est fixé, enfin, et qu'on tient, c'est de ne pas inviter d'artistes cis-mec en tant qu'artiste, mais en tant que festivalier et festivalière, tout le monde est là le bienvenu. Et par ailleurs, on essaie de trouver des gens qui, par leurs illus, leurs BD, essaient de... Enfin, soit qu'ils produisent un travail militant très concret, soit qu'ils essaient de montrer d'autres histoires, d'autres manières de dessiner les êtres humains ou d'autres choses.
Oui, cette année, on a vraiment fait attention à ça, à inviter, effectivement, on fait avec les personnes qui sont disponibles et qui nous répondent, mais inviter des personnes dont le travail est expressément militant, donc anti-LGBTQIA+, phobie, antiraciste, tout ce genre de discrimination, voilà, je ne vais pas toutes les citer. Au-delà des artistes, on fait venir cette année le collectif Les Dévalideuses, dont La Vie à Croquer, qui aura un stand à Plancheuses, fait partie, et qui, justement, lutte contre le validisme. Enfin, on fait vraiment en sorte, à notre échelle et avec nos moyens, de donner le plus d'espace aux personnes qui luttent activement contre les discriminations qu'on subit pas forcément, nous trois, je veux dire.
Et est-ce que des dessinateuristes peuvent vous contacter pour vous proposer de faire partie de la prochaine édition, par exemple ?
Carrément. Là, on est complet pour cette édition-là, malheureusement. Mais vous pouvez carrément nous DM sur Insta et on ne vous garantit pas de vous répondre dans la journée parce qu'on est très prise par l'orga. Mais n'hésitez pas à nous écrire dans quelques semaines ou mois pour qu'on s'en reparle.
Et l'Instagram, c'est festivalplancheur.euse.
Le lobby. Tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Décidément, le monde de la BD aime s'emparer des sujets croustillants. Cette année, Ludine, tu as lancé sur les réseaux une pétition contre la station de métro de la ligne 11 qui devait s'appeler Serge Gainsbourg. Et cette pétition a recueilli plus de 17 000 signatures à l'heure actuelle et a été très médiatisée. Pourquoi cette pétition ?
Alors, donc moi, initialement, j'ai fait une bande dessinée, effectivement, sur mon compte Instagram. Et après de ça, en partant de ça, est née cette pétition. On l'a écrite à plusieurs, donc notamment Marie G, qui est une militante résidente du 93, enfin, autour des Lilas, où la station est censée sortir de terre au printemps 2024. On a fait cette pétition parce que c'est... Enfin, on trouve, et on n'est pas les seuls, que c'est scandaleux que ce soit encore le nom de Serge Gainsbourg, d'un artiste... dont on sait qu'il a été violent, misogyne, dont on sait également qu'il a au moins grandement participé à la culture de l'inceste dans son œuvre, que ce soit encore celui-ci sur lequel on choisisse de mettre la lumière. Et c'est en soi un combat relativement similaire à celui qu'on mène avec Plancheur, c'est juste que c'est toujours aux mêmes personnes qu'on offre des espaces de parole ou juste de célébration. Et que nous, notre point, donc c'est que je répète parce que c'est pas clair pour tout le monde, mais on n'est pas en train de dire qu'il faut supprimer Gainsbourg de toutes les annales, seulement que peut-être on pourrait mettre en avant pour changer d'autres personnes. Et pour ça, on a créé cette pétition.
Ça en est suivi un peu une sorte de mouvement, si je peux appeler ça comme ça, ou en tout cas une mode, remplacer Gainsbourg par, dont plusieurs BDistes se sont emparés, donc par exemple remplacer Gainsbourg par Monique Wittig, par Audrey Lorde. Ludine, tu as notamment fait une BD sur Instagram avec Cécile C, qui dans son travail aborde régulièrement des sujets féministes mais aussi des coloniaux, ou encore celui des violences sexuelles et de l'inceste. Comment ça s'est fait cette collaboration ?
Alors Cécile, rendons à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre, c'est une des premières personnes à avoir commencé à parler du fait que Gainsbourg est problématique, même si personne n'est tombé de sa chaise, beaucoup de gens ne sont pas tombés de leur chaise en lisant sa BD, mais à l'occasion de la mort de Jane Birkin, elle avait parlé c'est ce que je disais tout à l'heure, de la culture de l'inceste qui est... à l'œuvre, dans l'œuvre de Gainsbourg. Du coup, en fait, quand elle a vu ma BD, on s'est parlé et juste on s'est retrouvé sur ce thème-là. Et elle, ça avait fait un petit buzz aussi, à l'échelle d'Instagram, mais quand même. Parce que Gainsbourg a vraiment une place particulière dans le paysage culturel français, mais même international, parce que de par son compagnonnage avec Jane Birkin notamment, il est assez connu dans le monde anglo-saxon. Et ni l'une ni l'autre, on s'attendait au moment où on a parlé de ce sujet-là à ce que ça devienne un tel sujet. Et de fait, ça crée des liens, quoi. On s'est retrouvés là-dessus et on s'est dit qu'il fallait qu'on collabore pour donner encore plus de force à la pétition, notamment avant le rendez-vous qu'on avait prévu avec la mairie des Lilas.
En parlant d'Instagram, parce que du coup, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'Instagram, mais c'est un peu le réseau social de l'image. Est-ce que c'est un média assez facile justement pour les dessinateuristes et les BDistes ? Est-ce que toi, par exemple, tu postes aussi sur d'autres réseaux sociaux, ou est-ce que c'est vraiment Instagram qui permet à un petit monde de dessinateuristes peut-être isolés dans leur coin de se rencontrer, de se partager des BD et de grandir ?
Alors moi, je poste pas sur d'autres réseaux sociaux, mais pas par désintérêt, mais juste par manque de temps. Je suis en train de me faire un site internet pour que notamment les grands-parents aient accès à mon travail. Je pense qu'Instagram, oui, c'est super accessible. Il y a énormément de jeunes illustrateuristes, parce que d'ailleurs, nous, on est allés trouver là. Ça permet à tout le monde peut se créer un compte Instagram, du moment qu'on a un téléphone intelligent. C'est un super endroit pour débuter. Et pour avoir des retours facilement et se faire connaître, j'imagine.
En quoi le médium de la BD sert ces mouvements, notamment, du coup, là, on parlait de dénoncer les violences liées à l'inceste.
La BD, c'est pratique parce que c'est une façon d'avoir du texte, mais aussi des images. Et c'est un médium qui est assez populaire, au terme de... bah, c'est transgénérationnel, c'est la BD, il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes, c'est une façon de se cultiver qui est présente chez toutes les classes sociales, enfin plus ou moins, mais voilà, les Bourges appellent ça roman graphique, mais c'est la même chose. Et beaucoup de gens qui disent ne pas lire, lisent des bandes dessinées, enfin c'est vraiment très accessible. Et c'est par ailleurs un milieu, enfin le 9e art, est en train de faire de prendre le pas MeToo, mais prend plus de temps que les autres, parce que a été sclérosé par le sexisme vraiment particulièrement fort. Enfin, je pense que l'alliance des mots et des images fait que c'est particulièrement parlant, peut-être pour plein de gens. Et par ailleurs, Instagram rend tout ça très accessible.
Et du coup, pour vous, le milieu féministe et ou queer, si j'en parle vraiment très largement, comparé au milieu assez mainstream, cis-hétéro de la BD, quand on pense à Angoulême, ça représente combien de personnes à peu près ? Enfin, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Bah alors, en termes de proportion, on ne peut pas te donner une réponse super précise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a de plus en plus. Nous, on n'a pas du tout eu de mal à trouver des personnes à inviter, ni de personnes volontaires. Là encore, on reçoit tout le temps des demandes de... la programmation est bookée, on est désolé, mais de personnes qui veulent venir tenir un stand, et on aimerait pouvoir inviter plein de gens, mais malheureusement, on n'est pas suffisamment. Donc oui, la communauté grandit, c'est sûr. Et un autre élément qui est intéressant à prendre en compte, c'est le public qu'on a eu l'année dernière et qu'on espère avoir cette année. Enfin, vraiment, on pensait l'année dernière, vu qu'on avait tout organisé très très vite et qu'on n'avait pas pu faire beaucoup de communication autour, on pensait qu'il y aurait nos parents, nos amis et trois autres personnes qui se seraient perdues en chemin. Mais non, il y a eu vraiment énormément de personnes, et cette année, on gagne des abonnés tous les jours. Bon, après, on n'en a pas non plus des dizaines de milliers, mais tout de même, ça grimpe. Et donc, la raison pour laquelle ça marche aussi bien, c'est probablement qu'on est venu combler un trou dans ce milieu-là, et donc un besoin que peut-être personne n'avait formulé de fin. Voilà, en tout cas, cette initiative-là rencontre un public.
Et est-ce que vous diriez que cette nouvelle vague de dessinatrices, assez du coup militante, est-ce qu'elle est peut-être plus jeune ?
Oui, clairement, notre public a globalement nos âges, quoi.
Mais parce que par exemple, donc on parle beaucoup d'Instagram, mais par exemple, il y a pas mal d'autrices qui ont été publiées dans des magazines, bah du coup toi. Je pense aussi à Salomé Laoche ou même dans La Déferlante, qui publie quand même toujours à chaque numéro des BD, comme Myriam Mal ou Salomé Laoche. Et je voulais savoir aussi, est-ce que, par exemple, toi, Ludine, quand tu dessines sur Instagram, est-ce que tu aimerais bien être publiée dans un format livre, voilà, ou est-ce que c'est pas forcément le propos ?
Ah, si, moi j'aimerais beaucoup être publiée, ce serait vraiment super, n'hésitez pas à m'écrire. Mais. Je pense qu'il y a. Le monde de l'édition classique, papier, j'entends, et pas. Indissociables, et Instagram sont pas complètement séparés. Il y a des liens qui se créent, et c'est super d'être sur Instagram parce qu'effectivement on a accès au public qui nous trouve cool. Mais être édité en papier, les personnes qui le font, ça leur permet de toucher d'autres types de gens, des gens qui vont en librairie, des gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, des personnes plus âgées. Et c'est aussi comme ça qui infuseront les idées que nous on défend, toutes les luttes qu'on a citées précédemment, c'est quand elles seront accessibles à l'ensemble de la société. Heureusement, tout ne se passe pas sur Instagram, mais du coup, il nous faut investir tous les espaces.
Parce que je pense par exemple à Tamos le Thermos, que vous aviez invité l'année dernière.
Et qui revient cette année.
Et qui a, peut-être que je me trompe, mais vraiment surtout commencé par Instagram, et qui a ensuite publié son livre Genderflou l'année dernière. Est-ce que c'est aussi grâce à Instagram qu'il a pu avoir autant de visibilité et se faire publier ?
Tamos a participé à la table ronde l'année dernière, et oui, elle disait vraiment que c'était par Instagram qu'elle était arrivée à trouver sa maison d'édition, qui est la maison d'édition Exemplaire. Et oui, il y a beaucoup d'autoristes, Salomé Laoche dont tu parlais notamment, c'est ce qui s'est passé aussi. Les éditions Exemplaires sont super, car maison d'édition alternative qui rémunère beaucoup mieux ses autoristes, et qui en plus donne la chance à des jeunes autoristes publier en version papier.
C'est une maison d'édition qui a été créée par Lisa Mandel.
Ouais, c'est ça, Lisa Mandel, qui sera là aussi cette année.
Est-ce que toi, du coup, Ludine, tu peux un peu nous parler de ton travail ?
Bah alors, mon travail en tant qu'autrice de BD, il n'est pas encore... Je pense que mon compte Instagram ne reflète pas encore l'étendue des sujets, enfin personne, hein, mais l'étendue des sujets dont j'aimerais parler. Et même le format Instagram, bah, c'est super parce que ça permet de toucher plein de gens, mais c'est aussi très contraignant parce que c'est petit. Il y a 10 cases, si tu veux qu'une publication fonctionne, il ne faut pas trop en dire. Et moi j'aime bien parler. Du coup, c'est contraignant pour plein de choses. Mais en gros, moi les thèmes auxquels je me suis principalement attaquée pour le moment, c'est toutes les questions de féminisme. Dont il est question dans le féminisme, notamment parce que bah, c'est le sexisme, moi c'est la misogynie, c'est en tant que personne blanche, tout ça c'est une des seules discriminations que je subis, et du coup ça me demande pas trop de réflexion, enfin en tout cas c'est ma place que de l'analyser, mais j'aimerais bien pouvoir visibiliser d'autres luttes, et c'est ce qu'on fait notamment avec Planche Rose en invitant des invités, enfin des auteurs qui parlent de racisme et tout ça. Je pense que ouais, mon actu principal effectivement c'est la lutte contre la future station de métro Serge Gainsbourg.
Est-ce qu'on a des nouvelles de la pétition et du projet peut-être?
On est en train d'écrire à la région, donc on a lancé effectivement ce dont tu parlais, le challenge, le Draw This in My Style, comme en 2010, remplacer Gainsbourg par, pour montrer la pluralité des personnes par lesquelles on pouvait remplacer Gainsbourg, et le fait que voilà, c'était vraiment pas un choix contraint, on aurait pu trouver plein d'autres personnes, et que si la région manque d'inspiration, nous on en a plein. Et c'était super de voir que autant d'illustratrices et d'autrices de BD se mobilisaient pour dire vraiment que voilà, aujourd'hui c'est plus ok, enfin en tout cas beaucoup de gens trouvent que ça n'est plus ok que l'art couvre ce genre de pratiques de violence en fait et de discours, donc ça c'est super encourageant, mais voilà mon travail pour le moment, même si j'aimerais ne pas être associée pour toute ma vie à Serge Gainsbourg, mais voilà, je fais d'autres trucs.
Et si vous deviez remplacer justement Serge Gainsbourg par, avec une personne, vous choisiriez quoi?
Nous les propositions qu'on a portées à la mairie et qui sont celles qui, enfin c'est pas nous qui les avons formulées d'ailleurs, mais Anne Sylvestre, c'est pour rester sur une thématique musique et chansons françaises. C'est Florence Porcel qui l'avait suggéré sur Twitter. Ensuite, il y a L'Agneur Mieux Paris, Blanche Sabat, qui a suggéré France Gall, ce qui fait d'autant plus sens qu'elle a vécu des violences de la part de Gainsbourg, enfin, par avec les sucettes à la Nice. Tu l'as dit, Monique Wittig, Audrey Lorde, Charlotte Delbo, qui est une résistante qui a vécu au Lila, donc en plus, c'est qu'il y a un ancrage local. Et après, bah, dans le monde de la BD, il faut venir à Planche Heureuse et vous verrez toutes les personnes par lesquelles on pourrait remplacer Gainsbourg.
Et Mathilde, tu dirais quoi? Enfin, qui?
Bah, Monique Wittig, c'est très bien, mais les autres noms qui sont proposés seront super aussi. Et juste déjà de dégager Gainsbourg, ce serait incroyable.
Ce sera.
Et pour terminer, vous vouliez nous présenter une BD, je crois.
Moi, je voulais vous parler d'une BD qui s'appelle Bagarre érotique, récit d'une travailleuse du sexe, qui a été réalisée par l'autrice de BD Clou, qui va venir au festival pour tatouer et aussi tenir un stand. Et vous pourrez aussi vous faire dédicacer sa BD si vous avez envie, après l'avoir achetée au stand de Librairie Majo. C'est une BD que j'ai beaucoup aimée, à la fois en termes de contenu et en termes de forme. Les dessins, ils me parlent beaucoup. Il y a un travail sur la typo qui est assez incroyable, je trouve. Et ça alterne entre des pages où il n'y a que du texte, c'est de la poésie en prose comme ça, et puis après, il y a X pages juste de BD. Donc la forme est assez incroyable, les couleurs et les formes du dessin sont très jolies, je trouve. Et d'un point de vue politique, elles viennent dire quelque chose aussi. Et sur le contenu, je trouve que c'est une BD qui peut être lue par tout le monde et que tout le monde peut apprendre des choses et ou être touché, ému par tout ça. Moi, je l'ai fait lire à mon père et on n'est pas les mêmes personnes. La BD nous a plu à nous deux. Donc je pense que ça peut être un bon moyen de sensibiliser plein de gens aussi.
Est-ce que tu peux nous décrire la couverture peut-être?
Oh là là. Jésus.
D'où je suis, je vois du rouge, du noir. Ouais.
La couverture, il y a un fond rouge pétant qui donne envie soit d'être en colère, mais qui est aussi un peu apaisant. Et puis il y a écrit le titre Bagarre érotique en très gros en police blanche, et en dessous, un peu plus petit, en noir, il y a écrit Récit d'une travailleuse du sexe. Et sinon, sur une bonne partie de la couve, il y a une personne dont on voit le visage et le haut du corps, qui porte pas de vêtements, qui a un visage un peu mystérieux, mais qui invite à ouvrir le livre, quoi, et qui a des longs cheveux en forme de serpent.
Et toi, Ludine, ton choix ?
Alors moi, c'est pas une BD, c'est un compte Instagram d'une personne autrice de BD, donc c'est Elie Saurel, E-L-I-E.S-A-U-R-E-L. Et bah, pour nous, ça faisait sens de mettre en avant une personne justement qui n'avait pas encore édité, parce que c'est, voilà, c'est l'ambiance du festival. Enfin, moi, j'aime beaucoup son style de BD, mais surtout les sujets qu'Elie aborde sont très politiques, sont parfois queer et féministes, mais même au-delà de ça, il y a vraiment un engagement... sur des sujets plus actuels, je cherche là, mais voilà. En tout cas, ça fait ouais sur voilà bon sur oui voilà Antifa par ailleurs et ça fait du, enfin c'est cool de voir des autoristes de BD engagés voilà, qui se cachent pas de l'être, et voilà, donc allez follow Elie qui sera là aussi au festival Plancheuse.
Merci beaucoup Ludine et Mathilde d'être venues parler du festival Les Plancheuses au micro du Lobby. Ça se passe le 16 et 17 mars aux Arches Citoyennes à Paris. Vous pourrez retrouver toutes les références que nous avons évoquées ainsi que le programme du festival sur le site du Lobby. On se retrouve vendredi prochain, d'ici là je vous souhaite de belles découvertes de BD, de comptes Instagram et de vous lancer pourquoi pas vous aussi dans le dessin.